Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Ok, on est prêts ce soir. Dites Seigneur Jésus, aide mon pasteur à communiquer ton cœur. Nous ne voulons pas être dans la chair ce soir. Nous voulons être connectés à ton cœur, entendre les battements de ton cœur. Fais de nous cette armée d'hommes et de femmes qui n'ont peur de rien, conscients de la réalité spirituelle et totalement heureux de savoir que tu es pour nous. Amen. Ce soir, je vais lire, ce sera sur vos écrans parce que j'ai pris des versions spéciales. Je vais tenter d'être bref et de vous donner une révélation de ma vie en ce moment que je vis. Je passe par des moments extrêmement difficiles. Non pas que je pêche, par la grâce de Dieu, j'essaye de ne pas pécher. Mais mon Dieu, combien les attaques se font cruelles et virulentes en ce moment. Il n'y a pas une heure qui se passe sans qu'il y ait un email ou un SMS d'attaque contre moi et ma famille, et je dis Alléluia. En anglais on dit make my day, ça veut dire fais de ma journée un succès, parce que lorsque les gens attaquent de la part de l'ennemi, Dieu contre-attaque et me forme à son image. Ce soir, le titre de mon message est un message que je prêche à moi-même toute la semaine et à vous ce soir. Le titre de mon message, c'est traverser un moment difficile. Qui a déjà traverser un moment difficile? D'accord, c'est ce que je pensais. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3, nous dit que toute la louange revienne à Dieu et Père de notre Maître, Jésus le Messie. Lui, le Père de toute miséricorde. Écoutez ça, hein? Dieu de tous ceux qui transmettent les bonnes nouvelles de guérison. Verset 4, il vient à côté de nous quand nous passons par des moments difficiles. Et avant que vous le savez, il nous amène aux côtés de quelqu'un d'autre qui passe par des moments difficiles pour que nous puissions être là pour cette personne, de même que Dieu était là pour nous. Magnifique, nous avons expérimenté beaucoup, c'est Paul qui parle, beaucoup de moments difficiles depuis que nous avons choisi de suivre le Messie. Et cela signifie surtout que nous avons expérimenté de bons moments, ceux de sa guérison qui nous réconforte. Et je vous assure, nous avons reçu une pleine mesure de réconfort. Dès l'instant que vous souffrez pour Jésus, cela apporte dans votre vie une pleine mesure de guérison et de salut. Si nous sommes bien traités par un mot d'encouragement ou par une main tendue, alors cela fonctionne également à votre avantage. En effet, cela vous pousse, vous aussi, à aller de l'avant avec une force sans faille. Vos moments difficiles sont aussi nos moments difficiles. Combien je vis ce passage. Quand on voit que vous êtes tout aussi disposé à supporter les moments difficiles que de profiter des bons moments, nous savons alors que vous irez jusqu'au bout. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous ne voulons pas vous cacher. Paul continue à parler, Paul écrit, il dit: nous ne voulons pas vous cacher, mes chers amis, sur les moments très difficiles qui nous sont tombés dessus. En Asie, province, des moments si noirs, si intenses, que nous ne pensions pas pouvoir survivre. Le grand Paul parle comme ça. Verset 9, c'est tout simplement comme si nous avions été envoyés au couloir de la mort et nous croyions vraiment que tout était fini pour nous. Mais comme cela s'est avéré, c'est en réalité la meilleure chose qui pouvait arriver. Au lieu de placer notre confiance en notre propre force ou intelligence pour nous en sortir, nous n'avions aucun autre choix que de faire confiance à Dieu totalement. Après tout, cela n'est pas du tout une mauvaise idée, car il est le Dieu qui ressuscite les morts. Yes. Et il a fait, il nous a sauvés d'une mort certaine. Et il est toujours prêt à le faire. Oui, il nous sauvera autant de fois que nous avons besoin d'être sauvés. Le verset 11 dit: je veux aussi vous dire que vous et vos prières font partie intégrante de son opération de sauvetage. Vous pouvez en être certain. Je vois vos visages, même maintenant, levés vers le ciel, les cœurs remplis de louanges et remerciant Dieu pour la délivrance de nos vies. Ce fut une opération de sauvetage dans laquelle vos prières ont joué un rôle crucial. Wouh! Yes! La parole de Dieu est extraordinaire. Paul est en train de décrire un moment où il se dit, les gars, j'ai failli mourir. J'étais dans le couloir de la mort. Et ce soir, je veux te parler de comment faire, comment réagir lorsque tu te trouves face à une dépression si sombre, si noire, à un moment si dur, en tant que chrétien, en tant que croyant, fils et fille du roi des rois. Et tu te dis, mais comment cela se fait-il? J'aime Jésus, je donne ma dîme, je viens à l'église, et tout d'un coup, tu te lèves le matin, et la vie est très très sombre. Et Paul dit, j'ai vécu ces moments-là, où j'ai cru que c'était fini. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible dit toujours la vérité. Tu comprends ça? Et dans la Bible, tu vois Moïse en colère, tu vois un David qui tombe, qui chute, et qui dans Psaume 51 dit, Seigneur, rachète-moi, restaure mon âme, guéris mon âme, restaure les os que tu as brisés, afin que je puisse à nouveau te louer et partager la bonne parole à ceux qui sont perdus. David avait péché, il avait couché avec une femme, et il avait fait tuer son mari pour avoir la femme. C'est quand même pas mal comme péché. Et Dieu lui a dit, tu es un homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu est pour le péché? Non. Mais Dieu est pour le pécheur. Les chrétiens, souvent, ils m'impressionnent par leurs bêtises. Excusez-moi l'expression. Parce que quand je n'étais pas encore sauvé, Dieu m'a aimé et est venu me chercher pour me sauver. Et quand je suis sauvé, je crois que Dieu ne m'aime plus. C'est bizarre. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Dieu t'aimera toujours. Quoi que tu fasses, mal ou bien, tu ne pourras pas changer son amour pour toi. Le bien que je fais ne pourra pas faire grandir son amour et le mal que je fais ne pourra pas faire diminuer son amour. Son amour est éternel, immuable, extraordinaire, glorieux, majestueux, constant, continuel, fidèle. Par contre, mes péchés peuvent me séparer de lui pour une saison. Je peux, à cause de mon propre péché, ne pas comprendre son cœur. Mais comme un Dieu, ce soir, dit Église, il est là pour nous. 2 Corinthiens chapitre 1, qu'on a lu ce soir, il me montre encore une fois que Paul, les amis, Paul était tellement honnête, tellement transparent, qu'il n'avait aucune honte de parler. Il était tellement déprimé, dans une dépression. Il a dit, les gars, j'étais prêt à mourir, j'étais sur le point de mourir. J'ai cru en fait que ma vie allait être finie. J'étais dans la dépression, on était fini, terminé. Mais Dieu, tout le monde dit, mais Dieu. Ce soir, j'aimerais vous partager trois points principaux, trois grands principes. Qui peuvent littéralement vous sauver la vie, littéralement vous aider à sauver la vie d'autres personnes chrétiennes ou non chrétiennes autour de vous. La première chose que je ne dois pas faire, quelle que soit ma circonstance, que ce soit un problème spirituel ou un problème émotionnel ou un problème relationnel ou un problème financier ou un problème de couple ou un problème de famille, quel que soit le problème, mon Dieu est plus grand que mon problème. Et le premier point ce soir, écoutez bien, c'est une chose très simple, mais combien puissante. Le premier point ce soir à écrire sur vos bibles, sur vos feuilles, sur vos iPads, iPod et tout le reste, c'est d'écrire qu'il ne faut jamais oublier que Dieu est capable. Dieu a la puissance de se servir de tout ce qui ne va pas pour transformer tout ce qui ne va pas pour mon bien. Et c'est important de comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas encaisser et souffrir le moment difficile. Mais si tu comprends que tout le moment difficile entre les mains de Dieu est un moment que Dieu travaille pour ton bien, c'est la première étape. Combien d'entre vous ce soir, vous avez déjà fait face à des problèmes? Combien vous aimez les problèmes? Qui n'aime pas les problèmes? Ok, c'est quand même pas mal, la majorité. Qui aime grandir? Mais qui n'aime pas les problèmes? Celui qui n'aime pas les problèmes avec Dieu, ou les problèmes que Dieu permet, celui qui ne comprend pas la puissance d'un problème, ne comprend pas la puissance de la croissance spirituelle. Il faut des problèmes pour grandir. Un frère est avec nous cette semaine, il partageait à l'équipe et il disait, j'ai reçu une parole prophétique Et l'homme de Dieu disait que tu vas voir des miracles, et tu vas voir des miracles, et tu vas voir des miracles. Et il a dit, tu sais, je suis rentré chez moi, j'étais content, j'étais heureux. J'ai dit, des miracles, oui, je veux des miracles, je veux des miracles. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte, il dit, mais pour avoir des miracles, il faut qu'il y ait une situation impossible. Et là, il a commencé à dire, oh là, combien de miracles tu veux que j'aie, Seigneur? Parce qu'à chaque fois qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait des espoirs. Vous savez, le problème, est-ce que vous savez que Dieu permet des problèmes dans notre vie? Vous devez faire la paix avec ça parce que c'est important ce soir. Dieu permet les problèmes, et rapidement écoutez ça, c'est important pour nous, histoire d'église, de comprendre, parce que trop de chrétiens veulent éviter le problème, et en évitant le problème, ils évitent la croissance. Et ce soir, comme Paul, nous voulons apprendre que dans les problèmes, dans la circonstance, dans un moment difficile, si mes yeux sont sur Dieu, ma croissance est assurée. Si mes yeux sont sur Dieu, tout ce que le diable aura choisi de faire en mal, Dieu va le transformer pour mon bien. Si mes yeux sont sur Dieu. La Bible dit que Dieu se sert de nos problèmes, écoutez bien ça, pour nous diriger. Il y a des fois, nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter Dieu, nous voulons faire qu'à notre tête. Dieu dit, ok, fais qu'à ta tête, tu auras des problèmes. Et à la fin du problème, on dit, bon, je vais passer par là en fin de compte. Et en fin de compte, tu passes par le chemin que Dieu avait prévu d'avance. Mais quand tu n'as pas compris, il a fallu un problème pour te diriger. Tout le monde dit, les problèmes peuvent servir à me montrer la voie. La deuxième chose que j'ai remarqué sur les problèmes, c'est que les problèmes, Dieu se sert des problèmes pour m'inspecter. Tout le monde dit m'inspecter. Vous savez, pour mettre mon cœur à nu, pour voir comment je réagis. Cette semaine, j'ai eu mon lot de problèmes, de critiques. Vous savez, j'ai compris une chose. Pour un pasteur, il n'est pas besoin pour un pasteur de chercher une raison d'être déprimé. Les raisons s'invitent d'elles-mêmes. Tu ouvres ton Max de matin, ton ordinateur, tu regardes tous tes mails et il y a plein de requêtes de prière. Et là, tu peux facilement être déprimé en disant, Seigneur, si tu ne viens pas, je suis mort. Il y a trop de problèmes à gérer. Il y a de moins en moins à Hosanna, c'est magnifique. Hein, c'est une bonne nouvelle ça par contre. Il y a plein de problèmes en dehors. C'est bizarre. Tout le monde dit Dieu se sert des problèmes pour me montrer l'état de mon cœur. Vous savez, c'est comme un sachet de thé que tu trempes dans l'eau bouillante. Une fois qu'elle tremble dans l'eau bouillante, là le thé se libère, le parfum se libère. C'est comme appuyer sur un tube de dentifrice et bam, dentifrice sort. C'est comme presser une orange et le jus d'orange sort. Si tu veux le jus de l'orange, il faut presser l'orange. Dieu veut le jus de ton cœur. C'est un bon message, hein? Dieu se sert des problèmes pour nous corriger. On fait des choses, on ne pense même pas à Dieu, on ne demande même pas à Dieu ce qu'il pense, on dit des choses, on prend des décisions. Moi, j'étais vraiment comme ça avant, je commence à bien changer par la grâce de Dieu parce que j'ai vraiment compris que faire des choix sans Dieu, c'est inviter Satan dans sa vie. Je me suis rendu compte que lorsque je faisais des choix sans Dieu, Dieu va permettre le problème pour me corriger, me discipliner. Dieu se sert, ça c'est une chose que j'ai appris aussi, écoutez bien mes amis, hein. Dieu se sert d'un moment difficile, écoutez bien ça, hein. Dieu se sert d'un moment difficile pour me faire éviter un moment plus difficile. Toi, tu veux faire ça, et Dieu te dit, si tu fais ça, tu vas mourir, tu n'es pas prêt pour ça. Donc d'abord, je te ferai passer par ce moment difficile-là pour que tu prennes du galon spirituel, pour que tu grandisses, afin que tu puisses faire face à un problème plus difficile. C'est comme si je te disais, par exemple, ton petit garçon, il est en troisième et tu l'envoies directement en terminale. C'est fini, tu vas le perdre, sauf si c'est un génie. Mais tu dis, vas-y, fonce. Et le petit garçon arrive en pleurant, il ne comprend rien. C'est pas grave, tu peux le faire. Non, papa, je ne comprends pas, j'ai fait que 1 et 1 égale 2. Tu veux que je fasse des logarithmes et des... Comment c'est quoi encore le truc? Bref, fx de x moins z prime égale déprimé. J'ai écrit une phrase que Dieu m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, Bruno, le problème que je permets est un rempart contre la calamité. Des moments où Dieu va dire, attends, là, si je te laisse faire, t'es cuit. Il va créer un problème pour te freiner, pour te faire attendre, pour que tu puisses ne pas oublier un peu ce que tu voulais faire parce que de l'autre côté, il y a une calamité. Il y a plein de façons comme ça où Dieu se sert des problèmes pour nous édifier, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Les problèmes ont des atouts majeurs lorsqu'on les travaille avec l'aide de Dieu. Sans Dieu, ils nous détruisent. Avec l'aide de Dieu, ils nous construisent. Donc dans ce passage, nous voyons que Paul fait face à des moments difficiles, nous voyons que Paul fait face à des moments durs de sa vie. Il est tellement dur qu'il est déprimé. Si vous puissiez lire le grec, vous verrez que c'est des mots très très forts, très puissants, très profonds, où Paul dit « Je suis totalement dans le désespoir ». Avez-vous déjà vécu ce moment-là où tu es chrétien dans le désespoir? Vous avez vécu ça? Désespoir. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Tu crois que tout est noir, tellement noir, c'est noir fluo. Alors la première chose que l'apôtre Paul, qui m'a tellement encouragé et qui nous apprend ce soir, dans le premier point qui est... C'était quoi le premier point? C'est ne pas oublier que Dieu peut transformer un problème à mon avantage. Faut pas oublier ça. Écoutez bien ça. Ne pas oublier que Dieu peut transformer un problème à mon avantage. D'accord? Et il est crucial de comprendre pourquoi il fait comme ça et comment il le fait. Et comment arriver à ce stade où le problème devient un avantage? Très simple. Dieu se sert des moments difficiles pour m'apprendre à lui faire confiance. Ça paraît simple, je sais. Oui, faire confiance, bien sûr. Mais c'est quelqu'un dit un jour, André Crouch, écoutez ça, il a dit, si je n'ai jamais de problème, je ne saurai jamais ce que Dieu peut faire et comment il peut le faire. Le problème va révéler une caractéristique de Dieu que tu ne connais pas. Ceux qui ont fait face à la maladie vont savoir que Dieu guérit. Mais ceux qui n'ont jamais fait face à la maladie vont ne pas savoir que Dieu guérit. Ceux qui ont perdu un enfant vont tout de suite comprendre comment Dieu guérit les cœurs. Mais celui qui n'a jamais perdu un enfant ne peut pas comprendre comment Dieu guérit le cœur. Ceux qui ont eu un mariage difficile et qui sont sur le point du divorce et qui voient leur mariage restauré vont comprendre que Dieu est un Dieu qui restaure les mariages. Donc chaque problème amène une couleur, une caractéristique du caractère et de la personnalité de Dieu. C'est ça que Paul dit dans 2 Corinthiens, sur vos écrans, chapitre 1, 8 et 9. Il dit, mais nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, mes frères, au sujet de l'affliction, de la détresse, de l'oppression violente qui nous ont frappés dans la province de l'Asie, au sujet de la pression devenue tellement insupportable. Écoutez bien ça, c'est notre version. Tellement insupportable, nous étions tellement accablés et écrasés, et comme nous avions perdu tout espoir, plus aucune envie de vivre, dit le grec. Paul n'avait plus aucune envie de vivre, tellement c'était dur. En effet, nous avons ressenti au plus profond de nous que la terrible sentence de mort nous avait rempli notre âme. Mais nous nous sommes rendus compte que nous devions passer par là pour que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais que nous la placions en notre Dieu qui a la puissance de ressusciter les morts. Ce que Dieu veut dire dans le problème, c'est qu'il te dit « Je veux que tu apprennes à me faire confiance. » Église, il est impossible de vivre sa destinée sans faire confiance à Dieu. Donc Dieu va permettre quelques problèmes avant la destinée pour voir si on est capable de lui faire confiance dans la destinée. Dans le premier point toujours, j'aimerais aussi souligner que Dieu se sert d'un moment difficile. Écoutez bien, c'est hyper puissant. Pourquoi est-ce que Dieu permet parfois des moments difficiles? Il se sert d'un moment difficile pour me donner un ministère. Dieu se sert d'un moment difficile pour te donner un ministère. Qui aimerait avoir un ministère de la part de Dieu? Il y a moins de moi qui, c'est sûr, parce que là, ils vont se dire, mince. Eh oui. Écoutez bien ça. Surmonter un moment difficile te qualifie pour exercer le ministère envers d'autres personnes. Si les enfants n'ont pas fait un peu moins de bruit, ce serait vraiment super sympa. Dieu, regarde ton voisin et dit, Dieu veut te donner un ministère. Qui peut mieux aider quelqu'un qui passe par une faillite si ce n'est celui qui a déjà vécu une faillite? Qui peut mieux aider quelqu'un qui passe par un moment de douleur intense par un divorce que celui qui a déjà vécu le divorce? Qui peut dire, je peux t'aider à passer le cap si toi-même tu n'as jamais vécu ça? Et souvent les chrétiens oublient que si tu as vécu un moment difficile, remets-le entre les mains de Dieu ce soir et deviens un ministère pour lui. Parce que moi, je ne peux pas être comme Dominique Lallemand qui va dans les hôpitaux et qui par sa présence, son onction et son équipe, et on est en train de renverser des choses extraordinaires dans les hôpitaux de quelle région. Son équipe à Dominique est en train de faire des choses extraordinaires dans les hôpitaux du Sud. Mais c'est classique parce que cette femme-là, par exemple, elle sait c'est quoi la douleur de l'hôpital. Elle passe son temps, elle a passé des heures dans les hôpitaux, les tests, les piqûres, les prises de sang, les trucs. Elle sait c'est quoi la compassion pour un malade. Mais toi et moi, si nous mangeons cool à la maison et nous courons le bord de la plage, les cheveux dans le vent, il est très difficile d'avoir une compassion immédiate lorsque nous voyons un malade. Nous allons souffrir, mais pas autant que Dominique qui comprend la douleur. Tout le monde me suit ? Si une femme vient me voir en me disant « Pasteur, j'ai fait une fausse couche », je peux essayer d'imaginer, mais je ne peux pas comprendre. Et si une femme qui a fait une fausse couche vient voir une autre femme qui a fait une fausse couche, mais qui a été guérie par Dieu, elle aura tout le soutien, la puissance du témoignage de cette femme-là. Et donc le problème a ouvert un ministère. Et Paul dit, verset 4, j'adore cette version-là, il dit « Dieu vient à côté de nous quand nous passons par des moments difficiles. Et avant que vous le sachiez, il nous amène aux côtés de quelqu'un d'autre qui passe par des moments difficiles pour que nous puissions être là pour cette personne, de même que Dieu était là pour nous. » C'est magnifique. Ça signifie que ce soir, combien dans ce lieu vous avez déjà vécu un moment difficile ? Vous êtes tous des ministères. Tous. Je suis très sérieux ce soir. Vous avez le choix entre dire « Ah non, je souffre trop, je garde pour moi » ou tu déposes entre les mains de Dieu, tu fais « Seigneur, tu as promis de me guérir, guéris mon cœur, je cesse de me faire confiance à moi, je te fais confiance à toi, je vais voir, amène-moi vers des gens qui souffrent à mes côtés, je vais leur parler de ce que tu as fait en moi. » ce que Dieu a fait en toi est un témoignage puissant, il est prophétique. Il déclare ce que Dieu peut faire. On appelle cela la souffrance rédemptrice. On appelle cela la souffrance rédemptrice, c'est la souffrance qui rachète. Il y a une souffrance qui tue et qui perd les gens lorsqu'elle n'est pas offerte entre les mains de Dieu. Mais la souffrance que tu offres entre les mains de Dieu devient une souffrance rédemptrice. Par exemple, une maman qui accouche exerce ou vit, expérimente une souffrance rédemptrice. Pourquoi ? Parce qu'elle donne la vie à quelque chose de plus grand que la souffrance. La maman est capable et volontaire de subir la souffrance au moment de l'accouchement parce qu'elle sait que son enfant doit sortir. Steve me disait dernièrement qu'il avait une voisine qui était sur le point d'accoucher et il dit, tu sais, je vais prier pour toi. Et la femme dit, tu pries si tu veux, quand tu veux, je m'en fiche, je veux qu'elle sorte demain, je la fais sortir de toute façon. Je crie plus. Je peux imaginer la pauvre femme, je connais, moi j'imagine pas, hein. J'étais dans le ventre de ma mère, j'étais bien au chaud, on m'a fait sortir, j'étais cool. Ce que j'aime pas avec les docteurs, c'est que tu sors du ventre de ta mère, on te frappe, t'as encore rien fait, hein. Pouf. Ça m'a marqué. Hein. Dieu se sert, et là c'est un point important ce soir, écoutez ça. Dieu se sert des moments difficiles pour me rapprocher de mes frères et sœurs. Et ça, c'est un fléau dans l'église. La plupart des gens qui passent par des moments difficiles choisissent par... Je ne sais pas pourquoi, mais nous choisissons, lorsque tout va mal, de vivre dans le noir, tout seul. Et nous ajoutons une punition. Je souffre, mais parce que je souffre, je vais souffrir tout seul. Voilà, je veux que personne ne me parle, personne ne me touche, plus personne. Voilà pour eux. L'église n'aime pas moins. Pasteur, il n'y a pas moi. Téléphone ne sonne plus. Et le problème, c'est que le téléphone ne sonne pas, mais ton téléphone est éteint. Et quand tu appelles après, tu fais, mais je t'ai appelé. Mais tu sais, mon téléphone était éteint parce que j'ai besoin d'un break. Mais dans le break, tu as critiqué en disant, personne n'appelle à moi. Enfin, excuse-moi, pour les oreilles qui m'écoutent. Personne ne m'appelle. Le problème, c'est que Dieu nous a câblés pour vivre en communauté, et Dieu va parfois permettre un problème pour nous rapprocher des frères et des sœurs. Et si nous faisons ça, nous sortirons plus grands et vainqueurs. Si vous comprenez ça ce soir, si vous sortez de l'église en disant, tu sais quoi, je vais vivre ce message à la lettre, le pratiquer, je me rends compte que j'ai besoin, réellement besoin ce soir, d'aller voir des frères et des sœurs en disant, prie pour moi, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi, ça ne va pas, et tu peux partager ton cœur, même s'il ne comprend pas, même s'il n'est pas à la hauteur. Dieu n'a jamais dit, va voir un frère à la hauteur, il a dit, va voir un frère qui priera pour toi. Paul dit ici, magnifique passage dans 2 Corinthiens, verset 11, verset 1 et 11, il dit « Je veux aussi vous dire que vous et vos prières font partie intégrante de son opération de sauvetage. » Opération de sauvetage. Vous pouvez en être certain, je vois vos visages, même maintenant, levés vers le ciel, les cœurs remplis de louanges en remerciant Dieu pour la délivrance de nos vies. Ce fut une opération de sauvetage dans laquelle vos prières ont joué un rôle crucial. Ne sous-estime plus jamais la puissance de ta prière pour quelqu'un qui va mal. Et pour que les gens prient, il faut que tu puisses dire, pasteur, je vais pas bien, ou ma soeur, je vais pas bien, ou chérie, je vais pas bien, j'ai pas la morale, je suis pas enfant, je sais pas ce qui se passe. Et nous, parfois, nous avons besoin, nous aussi, de nous ouvrir et dire, Seigneur, ce problème-là me pousse vers mes frères. Si l'Église commence à vivre comme ça, nous serons tellement unis, tellement bénis que nous pourrons prendre la réunion pour Jésus sans aucun problème. Parce qu'au moment où je vous parle, les gens cherchent de l'aide. Ils cherchent le soutien. Amen. Et Paul était vrai et transparent. Combien ce soir pouvez-vous me dire, levez pas la main, mais vous pouvez me dire, je suis transparent avec mes problèmes. Ce soir au piano, j'avais besoin de dire mon propre chant. J'avais pas le moral cette semaine. J'étais attaqué par des gens qui... Voilà, et j'ai eu le choix de dire, ou bien je rentre dans le conflit, ou bien je me réjouis, j'adore le roi, je loue le Seigneur, j'adore, j'exalte mon roi. J'ai fait le bon choix. Et la paix est restée chez moi, je suis resté en paix avec ma femme. À une époque, j'aurais pris l'email, j'aurais fait un combat. J'aurais fait ça dans l'amour de Christ. Ça sert à rien. Jésus a dit, fais comme moi. Bénis ton ennemi. Seigneur, pourquoi tu écris ça là-dedans? La fois, Elodie, ma femme me disait, chérie, tu sais, j'ai lu un passage dans la parole de Dieu où Paul parle de la douceur des hommes. Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. J'ai fait, mon Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Et depuis qu'elle m'a dit ça, je cherche un verset pour elle. J'en trouve pas parce que, voilà, pour l'instant... Le deuxième point ce soir, c'est que, premièrement, on doit ne pas oublier que Dieu est capable de transformer le mal en... Ok, donc il va travailler là-dessus. Deuxième chose, c'est que je dois refuser. Tout le monde dit refuser. Je dois refuser. Tout le monde dit refuser. Mais refuser quoi? Je dois refuser d'écouter mes craintes, mes peurs et mes inquiétudes. Alors là, certains d'entre nous, nous avons un doctorat en inquiétudité. Le verset 8 à 11 nous dit, nous ne voulons pas vous cacher, mes chers amis, sur des moments très difficiles qui nous sont tombés dessus en Asie, des moments si noirs, si intenses, que nous ne pensions pas survivre. Donc Paul est clair sur son problème, il est clair, il voit le problème, il n'est pas en train de l'ignorer, on n'ignore pas le problème, il le voit, mais il dit, c'est comme si nous étions envoyés au couloir de la mort. Nous croyons vraiment que tout était fini pour nous. Mais comme cela s'est avéré, là Paul change, il change sa façon de penser. Il dit, c'était en réalité la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Au lieu de placer notre confiance entre propre force ou intelligence pour nous en sortir, nous n'avions aucun autre choix que de faire confiance à Dieu totalement. Là, vous avez quelqu'un qui dit, attends, je sais qu'il y a mes problèmes, il y a mes craintes, il y a mes douleurs, il y a mes inquiétudes, il y a plein de soucis, mais je choisis de placer ma confiance en Dieu et je change mes regards, je change ma vision, je change ma perception. Les problèmes sont là, mais Dieu est plus grand que mes problèmes. Vous avez deux choix ce soir. Écoutez bien ça, Dieu ne partage pas les problèmes. Dieu ne partage pas les problèmes. Dieu prend tous tes problèmes ou il ne prend aucun de tes problèmes. Ou bien tu portes ton problème tout seul, ou bien Dieu porte ton problème tout seul et toi tu ne portes plus rien. Mais nous essayons d'aider Dieu à porter le problème, comme si Dieu a besoin d'un coup de main. Certains ce soir ont un doctorat en inquiétude appliquée, de véritables inquiets professionnels. Vous savez, ceux qui ont tendance à s'inquiéter, souvent sur tout n'importe quoi, vont souvent se marier avec des gens qui, eux, s'inquiètent pour rien. Vous avez remarqué ça? J'ai vu ça, moi. T'as un qui est... Attention à la voiture, attention au rond-point, attention il pleut, attention au pneu, attention au chien, le chien est loin là-bas, attention au chien, il est chéri, il est attaché, c'est pas grave, imagine qu'il sort de la cour. Non, il est attaché, je dis, mais c'est pas grave, imagine que... Le chien, c'est un chien en bois. Ah ouais, c'est vrai, mais quand même. Et la femme ou le gars s'est fait un film, l'inquiétude, le gars est docteur en inquiétude. Et l'autre, à côté, ouais, chérie, ton enfant est dans l'eau, c'est bon, laisse-le vivre, il est grand maintenant. Il y a ces deux-là dans un mariage, souvent, je vois ça. Si quelqu'un est inquiet professionnel, l'autre est pas l'air avec ça professionnel. les deux font la peur, ok? Les deux sont mauvais. Être trop laxiste ou trop inquiet n'est pas bien. Certains disent, ouh. Mais ce soir, j'aimerais vous demander, vous donner une solution. Qui aimerait avoir une solution pour vaincre l'inquiétude? Sérieux, truc, parce que l'inquiétude est un péché. Le même Dieu qui a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas, il a dit aussi, tu ne t'inquiéteras pas. Pasteur Steph, si nous devions discipliner tous ceux qui s'inquiètent, l'église serait vide. Alors je vais prévoir le coup. Je vous donne une solution extraordinaire. Vous êtes prêts ce soir? Qui est prêt? Tout le monde dit, je veux plus m'inquiéter. Alors, écoutez bien ça. Un petit conseil d'amis. Programmez votre inquiétude. Attends. Tu écris, par exemple, je décide à partir de demain de m'inquiéter entre 7h et 7h05 du soir. Et tu compiles toutes les inquiétudes, tous les problèmes en 5 minutes. Et par contre, tout le reste de la journée, tu ne t'inquiètes plus. Si l'inquiétude vient, tu fais ce soir à 7h. C'est une bonne idée. Et ça marche. Je vous garantis, vous prenez pour un fou, Steve, il ne croit pas, mais ça marche. Parce que parfois, on ne peut pas juste vaincre comme ça l'inquiétude. On ne peut pas dire, je suis plus inquiet. Ouais, mon œil. Tu vas t'inquiéter. Mais moi, ce que je fais, j'ai programmé mon inquiétude. Je fais bon, de 7h à 7h05, bababa, ouh. Et tu programmes tout le package. Et là, 7h, tu fais, ting, 7h. Et tu y vas, et là, tu te lâches. Si tu veux, tu te lâches, tu pleures, tu roules par terre, tu fais ce que tu veux. Mais à 7h05, hop, c'est bon, c'est fini. Demain soir, même dose. Je vais au lit tranquille, je mange avec ma famille, je regarde les Jeux Olympiques, je me lève le matin, je prie, j'adore, je loue, au bureau, je suis content, je suis gentil, je suis heureux, je suis heureuse, je dis bonjour, je fais le café pour ma voisine, je fais le café pour mon voisin qui ne m'aime pas, mon patron m'énerve, je lui file une boîte de chocolat, il vient de me couper les deux tiers de mon salaire, je lui file deux boîtes de chocolat. Et à 7h le lendemain, inquiétude arrive. Ok, là je m'inquiète, c'est bon, je m'inquiète, je m'inquiète pour ça, je m'inquiète pour ça, c'est bon, je suis inquiet, 7h05, je suis plus inquiet. Eh, vous ne me croyez pas, hein? Ça marche. Je veux dire pourquoi? Parce que l'inquiétude a une valeur dans notre vie. Elle nous permet de sentir si les choses vont bien ou pas bien. Par exemple, ton enfant prend un vélo sans casque et se dit, maman, je vais rouler sur la 4 voies de Saint-Gilles. Tu sais que là, tu peux être inquiet. Là, l'inquiétude te dit, attention, il y a un problème, il est foufou le petit garçon. Oui ou non? Ou sinon, on te dit en ce moment, voilà, maman, je vais nager, je vais traverser la Réunion à Maurice à la nage. Tu sais que là, c'est quand même risqué en ce moment. Donc, tu es inquiet. Mais le problème, c'est que nous essayons de... Écoutez ça, hein, c'est important. Je pense que c'est fini. Nous perdons tellement d'énergie spirituelle en nous inquiétant toute la journée. Que le problème nous pompe de l'énergie. Le problème devient notre priorité. Nous sommes consacrés au problème, au lieu de nous consacrer à Dieu, à la famille, aux enfants, au travail, au fun. Alors moi, maintenant, ce que j'ai fait, le dit me voit plus en plus, j'ai des moments où je m'inquiète, où je me mets devant Dieu, je fais, bon Seigneur, ça je sais pas comment faire, là je suis inquiet, là je sais pas comment faire. Et depuis que je fais ça, j'ai dit à personne, ça, c'est ce que je dis, j'ai dit à personne, mais je l'ai vécu depuis des mois maintenant. Et j'arrive à dire à ma femme, chérie, t'inquiète pas, ça va être pourvu. T'inquiète pas, en son temps, c'est bon, on va prier, c'est cool, on y va, on fonce. Alors qu'avant, j'aurais été en train de paniquer. Plus maintenant, j'ai programmé mon inquiétude. Les femmes, faites ça dans votre maison. Je suis inquiète pour le sol, je suis inquiète pour le linge, je suis inquiète pour le lavabo, je suis inquiète. Le problème avec les problèmes, c'est qu'ils peuvent détruire notre joie. Et ce soir, c'est mon dernier point. Troisième point qu'il faut faire. Premièrement, c'est ne pas oublier que Dieu peut transformer le mal en bien. Deuxième chose, c'est ne pas oublier ou refuser en tout cas de s'inquiéter, refuser de laisser ses craintes et ses peurs dicter ta vie. Et le troisième point qui est très simple, c'est de se décider de se réjouir. Ça paraît très simple, mais c'est extrêmement important que tu choisisses de te réjouir, que tu choisisses de danser, de chanter. Surtout quand tout va mal, danse. Quand tout va mal, fais un déhanchement. Quand je vois les Jeux Olympiques en ce moment, je regarde de temps en temps, j'aime beaucoup ça, surtout la course. Et en parlant, hier soir, j'ai écrit un tweet. Vous savez, c'est quoi un tweet? Twitter? Qui a Twitter chez lui? Dans son téléphone. D'accord, le reste de vous, vous avez tweet? J'ai su, de toute façon, je ne savais pas, mais j'ai su dans mon cœur que Usain Bolt, vous savez qui est Usain Bolt? Champion du monde et d'Olympique de 100 mètres, 200 mètres. Le gars, c'est plus un gars, c'est un missile. Et je lui ai écrit en disant, je remercie Dieu, en anglais, je remercie Dieu pour votre vie, vous êtes une source d'inspiration, vive la Jamaïque. Et il a répondu, quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, il m'a répondu l'email, je ne sais plus, tu l'as pour moi le truc là? Il a répondu en anglais, mais je vais lire en français pour vous. You've got it? You've got it? Je suis là. Je suis là. C'est là, bon. Il a répondu. Je vais vous le dire. Il a répondu. Tout le monde, il a répondu. Il a répondu, je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, car sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Signé Usain Bolt. Là. Et quand je regarde les Jeux Olympiques, je me dis, ces gars-là passent par des moments très difficiles. Ils se privent, ils font des choses de folie pour quelques secondes de victoire. Et je me dis souvent, la différence entre ces gars-là qui ont la médaille d'or et l'autre qui n'a pas la médaille d'or, c'est parce que ces gars-là sont allés jusqu'au bout, ils n'ont pas abandonné malgré les soucis. Et les problèmes peuvent donc détruire notre vie parce qu'ils enlèvent notre joie. Et notre joie, c'est la force. La joie du Seigneur, Emma. Donc vous devez choisir de vous réjouir. Et je finirai par ce passage ce soir dans Philippiens 4, où Paul écrit, il dit, « Célèbre Dieu toute la journée. » Tous les jours, je veux dire, délecte-toi en lui. C'est bon ça. Soyez le plus clair et précis possible quant à votre désir de montrer à tous ceux qui vous entourent que vous êtes de leur côté, prêt à travailler avec eux et non contre eux. Aidez-les à voir que le maître prépare son retour, il pourrait apparaître à tout instant. Ne soyez pas anxieux et cessez de vous inquiéter. Au lieu de vous inquiéter, laissez les pétitions et les louanges transformer vos soucis en prières, en faisant part de vos préoccupations, avant même que vous le saurez, un sentiment de plénitude de la présence de Dieu viendra en vous pour vous apporter le calme et la paix, et tout prendra forme selon son cœur pour votre bien. C'est merveilleux de voir ce qui arrive quand Christ vient prendre la place de vos inquiétudes, se plaçant au centre de votre vie, les inquiétudes se plaçant... Ah, il y a un problème de phrase. Hein. Christ se place au centre de votre vie, mais les inquiétudes sont déplacées du centre de votre vie. Verset 8, pour résumer tout ça, mes amis, je dirais que le mieux que vous puissiez faire, c'est de remplir vos esprits en méditant sur des choses vraies, nobles, dignes de confiance, authentiques, glorieuses, magnifiques. Oui, concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur et non sur le pire. Fixez votre attention sur ce qui est beau et non ce qui est laid. Sur les choses qui provoquent la louange et détournez votre attention de ce qui fait naître le désir de maudire et de critiquer. Mettez en pratique ce que vous avez appris de moi et que vous avez entendu et vu et réalisé. Faites cela et Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien vous amènera à travailler dans son harmonie la plus excellente. Ouh ! Rendons gloire au roi des rois ce soir. C'est sa parole. J'aime sa parole. J'ai appris maintenant que quand tout va mal, je lis sa parole. Et je lis sa parole jusqu'à ce qu'il me parle. Je vais lire. Et quand il me parle, c'est tellement bon. Et ce soir, Église, Dieu veut te dire très simplement, avec trois points simples, n'oublie jamais que Dieu est capable et il veut transformer le mal en bien. Que deuxièmement, tu dois refuser d'écouter tes craintes et tes peurs et tes inquiétudes. Dieu est un Dieu de paix, il est Yahvé Shalom. Le troisièmement, tu ne dois pas oublier, en tout cas, c'est quoi le troisièmement? Vous ne suivez pas? Choisir de te réjouir. Tout le monde dit, je choisis de me réjouir. Et cette semaine, j'ai vécu un moment, comme je vous le dis, d'ailleurs difficile, que j'avais envie de pleurer. Vraiment. J'ai dit, bon, je vais courir. j'ai rien dit à ma femme. Et je me suis caché quelque part à l'entre-deux. Et j'ai fait... J'ai fait ça, j'ai fait le fou. Je sais plus comment j'ai fait, c'était spontané, hein. Là, c'est pas pareil. Si je suis filmé, c'est pas que ça coupait après. Hein. Mais j'ai fait le fou et j'ai commencé à faire « Ouais, je suis content, oui, c'est super !» Et les gars, je vous dis sincèrement, je suis redescendu entre deux, j'étais en forme. J'avais pas de douleur, j'ai dit, j'ai ma montre, j'ai fait purée, j'ai fait presque un record. Je suis content, j'ai dit, quand je dis ça, Cédric va être jaloux, je suis content, quoi. Parce qu'il y a une force qui se dégage lorsque tu choisis de te réjouir en Dieu. Alors, je vais vous dire une chose. Se réjouir est un choix. Être triste est un choix. C'est pas... On m'a obligé à être triste. Quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas t'enterrer sans ton accord. Si t'es vivant. Oui, bah oui. Si t'es mort, c'est fini pour toi. Fanny, je sais. Si tu es vivant, personne ne peut t'enterrer sans ton accord. Ne laisse ni l'ennemi, ni sa constance, ni les problèmes, ni les moments difficiles t'enterrer. Mais célèbre ton roi et fais de ton lieu de douleur un lieu de triomphe. Fais de la cave le lieu du centre opérationnel des actions de construction massive. Fais de la douleur que tu ressens cette douceur de l'âme de Dieu qui vient te dire, tu sais quoi, dans ta galère, je suis avec toi. Et tu vas voir, je vais transformer ton cœur. Jérémie a écrit un soap aujourd'hui ou hier qui était puissant. Il a parlé de ce fait que Marthe et Marie arrivent toutes les deux devant Jésus. Et les deux disent à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous savez l'histoire? Et Jésus, à Marthe, ne dit rien. Mais quand Marie lui parle, Jésus se met à pleurer. Jésus dit, je viens pour guérir. Bref, je paraphrase rapidement. Écoutez ça. Ce n'est pas les circonstances qui touchent. Ce ne sont pas tes circonstances qui touchent le cœur de Dieu. C'est ton attitude de cœur dans les circonstances. Il y a plein de gens autour de toi et moi qui vivent les mêmes problèmes que toi et moi. Mais certains décollent, passent par des moments glorieux et vont de gloire en gloire alors qu'ils ont des problèmes. Et d'autres qui ont les mêmes problèmes ou moins de problèmes s'enterrent, s'enfoncent et ne peuvent pas changer. Est-ce que Dieu est injuste? Non! Mais quelqu'un a compris quelque chose. C'est d'appliquer ces principes ce soir. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu me demande de ne pas écouter mes propres craintes et mes propres peurs et mes propres inquiétudes. Et Dieu veut que je me réjouisse en tout temps. Et je sais que mon Dieu se sert des problèmes pour me former. En ce soir, je vais vous laisser avec ça. Je voulais prier pour vous. Et Dieu me dit, non, je veux qu'ils aillent chez eux et qu'ils passent du temps dans ma présence. Je voulais prier pour les gens ce soir. Je voulais prophétiser. Je dis, Seigneur, je suis prêt, je veux le faire. Donne-moi des paroles. Il me dit, je veux le faire quelques jours. Mais ce soir, il m'a clairement dit, il veut que vous alliez pratiquer ce message. Parce qu'il est plus important pour moi et pour Dieu surtout que vous ayez la révélation dans votre propre vie, que vous continuez à venir avec un homme qui vous impose les mains tout le temps. C'est bien, il y a des moments comme ça. Paul dit, je veux vous donner des dons spirituels. C'est important. Mais ce que Steve et moi nous voulons faire également dans l'église Hosanna Extravagance, c'est que chaque chrétien devienne l'incarnation de la révélation que Dieu leur donne. Que vous puissiez vous lever le matin en disant, j'ai compris. Ce soir, je t'encourage avec moi à célébrer ton roi, à te délecter. Si tu ne sais pas comment faire, c'est très facile. Tu vas dans ta chambre ou sur une plage, dans une prairie, partout où tu voudras aller tout seul, tu lèves tes mains vers le ciel et tu commences à lui dire, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie, aide-moi, vois le problème. Et comme Paul a parlé ce soir, tu lui parles et je te garantis que si tu le cherches vraiment, il se laissera trouver par toi. Et alors que je priais pasteur Steph cette semaine, et ça va bien confirmer, Dieu m'a dit, Bruno, il est temps pour l'église de devenir mature. Que l'église ait une connexion avec moi tellement puissante qu'ils deviennent eux-mêmes des sources de lumière là où ils sont. C'est mon cœur pour vous ce soir. Amen.